Le regard de l'expert.
Et on continue de parler des demi-finales et surtout de cette affiche Angleterre-Danemark ce soir. L'ancien international suisse Johan Giroud est avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien et vous, jeune retraité, la banane j'imagine?
Oui, non, tout va bien, tout va très très bien. Écoutez, pas mal de choses à faire, donc ouais, ça fait plaisir.
Vous vous ennuyez pas, même en retraite?
Même en retraite, on ne s'ennuie pas, non. On peut faire plein d'autres choses.
Johan, ancien joueur d'Arsenal notamment, mais vous avez aussi joué au Danemark cette dernière saison à Nordjylland. Je ne sais pas si je prononce bien, peut-être que vous êtes meilleur que moi en danois. Surpris ou pas spécialement de voir le Danemark à ce niveau-là du tournoi?
Alors, le FC Nordjylland, non, la prononciation était pas mal du tout.
Merci.
Écoutez, non, je ne suis pas surpris parce que je l'avais un petit peu, on va dire, prédit. Je savais que l'équipe du Danemark avait des joueurs dotés de qualités énormes et surtout une formation assez incroyable qu'on n'a pas forcément idée que des choses pareilles peuvent se faire au Danemark. Donc non, je ne suis pas surpris.
Quand vous parlez de formation, si vous le comparez à la Suisse, le pays est au même stade, plus avancé dans sa formation?
Pour moi, plus avancé. Pour moi, plus avancé parce que bon, après, je suis tombé aussi dans un endroit un peu spécial. Le FC Nordjylland est vraiment reconnu pour produire des talents. Donc aujourd'hui, si on prend Damsgaard, qui est une des pépites de l'équipe du Danemark, oui. qui est rentré, on va dire un petit peu après le malheur qui est arrivé à Eriksson, eh ben il a déjà démontré tout son talent en quelques matchs. Donc c'est pour, en fait, j'ai envie de dire que le travail détaillé et aussi dans la liberté d'expression de l'être humain et non pas seulement du sportif, était assez exceptionnel comme expérience.
Et puis surtout, vous le disiez presque tout à l'heure, à quasiment tous les postes, il y a des bons joueurs, voire des grands joueurs qui jouent dans tous les grands clubs d'Europe. Et quand ça ne joue pas dans des top clubs, ce sont des clubs qui sont quand même toujours à la lutte pour un enjeu dans leur championnat. Donc vraiment pas des joueurs de seconde zone, comme on peut parfois le voir dans ce genre de nation.
Non, exactement. Et ça montre que le football danois est en progression, mais constante. Parce que on peut même reprendre le FC Midtjylland qui avait battu Young Boys pour le tour préliminaire de la Champions League. Et donc, ça, c'est une équipe du pays, mais qui a aussi des joueurs et des jeunes joueurs danois qui sont très, 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 très forts. Après, comme vous l'avez justement dit, il y a des joueurs qui jouent à l'Inter du Milan, à Milan, au Barcelone. Donc, c'est une équipe qui est dotée de talent et qui montre justement tout ce travail effectué en arrière-plan dans la formation et dans le développement de joueurs qui marche très très bien.
Vous avez un petit peu des échos d'anciens coéquipiers en club, des SMS peut-être, comment ils vivent ce parcours au pays qui rappelle un petit peu, à force qu'on avance dans le tournoi, celui de 92?
Exactement, écoutez, oui, et je vois surtout la ferveur, parce que comme je les suis un petit peu tous sur Instagram, Et tout ce qui se passe à Copenhague ou dans le pays en ce moment est assez exceptionnel. Mais surtout aussi, je pense qu'il y a eu un rassemblement et une union après ce qui s'est passé avec Eriksson. Mais ça n'a pas justement emprunté sur la qualité de l'équipe et je trouve ça encore plus beau.
Mais pour vous, il y a un effet Eriksson quand même qui s'est produit après cet événement malheureux?
Je pense que la qualité était déjà là. Mais je pense qu'il y a un effet Eriksson, oui, parce qu'il y a tout d'un coup un pays qui s'unit, il y a une solidarité, il y a un soutien pour lui aussi, une envie, je pense aussi, de bien faire pour lui rendre justement hommage. Mais après, ça n'enlève pas du tout la qualité de ces joueurs-là, parce que je pense que même, ce qui est malheureux, c'est que oui, ils perdent ce match contre la Finlande, mais si Eriksson était resté sur le terrain, je pense que le Danemark l'aurait remporté.
En tout cas, ils étaient supérieurs dans cette première partie de match, c'est vrai, contre la Finlande. Et puis, on peut s'imaginer que revenir sur le terrain avec ce qui s'était passé, c'était quand même pas évident. Ce soir, c'est contre l'Angleterre. Où il peut se situer dans le jeu, l'opportunité pour le Danemark, justement, d'aller embêter cette équipe anglaise, de vraiment faire un coup?
Il va falloir matcher, je pense, cet impact physique, parce que l'Angleterre, pour moi, aujourd'hui, est une des favorites, parce qu'elle a justement cette puissance, en fait. L'Angleterre est un monstre en soi, aujourd'hui, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément été toujours très convaincants, mais ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence, ils ont un impact physique, comme je l'ai déjà relevé, assez incroyable, et je pense que c'est là où le Danemark devra peut-être hausser un petit peu le niveau parce que justement, les Anglais, dû à la Première Ligue aussi et dû au jeu produit en Première Ligue aussi, ont justement cette capacité à mettre de l'impact et de la vitesse. Donc si les Danois arrivent à tenir ce rythme-là et à être aussi rigoureux dans les duels que les Anglais, et il y aura une belle partie.
Mais dans l'animation, la création, est-ce qu'elle vous a impressionné jusqu'à maintenant, cette équipe d'Angleterre ?
Écoutez, oui et non. J'ai envie de dire qu'il y a eu par à coup des choses, comme on le sait, des joueurs comme Sterling, comme Sancho, et d'autres qui n'ont même pas encore beaucoup joué, comme des Foden, comme encore Rashford.
Oui, Rashford qui est remplaçant, c'est incroyable dans une équipe comme ça.
Exactement, ouais. qui est remplaçant. Donc oui et non, parce qu'on a eu, bien sûr, contre l'Ukraine, beaucoup de coups de pied arrêtés qui ont fait la différence. Et en même temps aussi, quelques ballons entre les lignes et des joueurs comme Sterling qui font la différence. Et donc, ils ont cette panoplie dans leur répertoire. Donc, c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. C'est pour ça que, pour moi, elle ne m'a pas forcément encore impressionné dans la création, mais plutôt par son efficacité.
En tout cas, malgré cette force-là, le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, promettait de jouer. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter, Johan, et puis vous réagissez derrière.
We will try to be proactive. We'll try to play with courage. But of course, in a match like this at Wembley against England, we will be.
On va tâcher d'être proactif, de jouer avec courage dans un match comme celui-là à Wembley contre l'Angleterre. On n'est évidemment pas favori, mais notre mentalité, ce n'est pas de jouer au football comme un outsider ou un petit poussé, juste défendre et attendre. Non, notre mentalité, c'est d'essayer de prendre le contrôle, d'attaquer le plus possible, peu importe la force de l'adversaire. Notre état d'esprit, ce n'est pas de regarder l'adversaire et de se dire, oh, ces gars-là sont meilleurs que nous.
Watching the opponents and think, oh, these guys are better than we are.
Johan, vous retrouvez dans ces propos peut-être un état d'esprit danois que vous avez connu là-bas en championnat, cet état d'esprit de conquérant, de pas avoir froid aux yeux.
Totalement. Et en fait, pour la petite anecdote, le coach danois aujourd'hui était aussi coach au FC Nordjylland il y a pas si longtemps que ça. Donc le coach d'aujourd'hui a beaucoup appris du coach danois aujourd'hui. C'est vrai que je reconnais totalement ces propos-là parce que c'est ce qu'ils essayent d'inculquer aux jeunes. C'est-à-dire que n'importe quel âge, n'importe quel club, n'importe quelle équipe qu'on affronte, on fait notre jeu et on continue avec nos principes. Donc je ne suis pas surpris de ces propos-là et je suis sûr justement qu'on va avoir aussi un match assez serré, je le pense.
Serré aussi parce que vous qui avez été défenseur, justement, ce qui est incroyable aussi pour cette équipe d'Angleterre, c'est qu'elle n'a pas encore pris le moindre but depuis le début du tournoi. Est-ce qu'elle est plus froide, plus appliquée défensivement que ce qu'on a pu connaître par le passé, où on avait des fois des équipes qui avaient beaucoup plus d'allant, mais qui étaient peut-être moins rigoureuses sur certaines tâches?
C'est vrai qu'il est rigoureux, c'est vrai qu'elle impressionne à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'Angleterre n'a pas pris de goal encore. Et dû aussi par sa force offensive et aussi cette capacité à se replier assez rapidement et aussi avoir des joueurs comme Stones et Maguire qui font un super job aussi dans l'axe. Et bien sûr je peux aussi nommer les latéraux parce que il y a un travail d'équipe qui est fait. Mais c'est vrai que pour moi, je pourrais totalement imaginer le Danemark marquer ce soir et rendre justement la tâche un peu plus compliquée. Si l'Angleterre n'arrive pas à mettre la machine en route comme elle l'a fait jusqu'à présent.
Et derrière, côté danois, il y a aussi des joueurs qui connaissent bien le championnat anglais. On pense à Vestergaard, Christensen, Schmeichel. Ça peut jouer ou alors pas à ce niveau-là? Pas dans un match
non,
comme
je
ça
pense que, je pense que sur ces matchs-là, il n'y a pas forcément de choses comme ça qu'on peut prendre en compte. Là, c'est un match vraiment où on donne tout. On ne va pas commencer à calculer je joue en Angleterre ou lui, nanana, je connais. Peut-être qu'ils connaissent un petit peu certains mouvements de certains joueurs, donc ça pourrait aider au niveau tactique. Mais à part ça, des matchs comme ça, c'est au feeling que ça va se faire. Aussi, les actions sont on peut rien prédire. On ne peut pas encore aujourd'hui se dire, OK, on a joué deux fois contre l'Angleterre ou on joue Leicester, par exemple, deux fois dans le championnat, donc on peut essayer de s'adapter. Là, c'est vraiment un match qui va être fou, je l'espère, avec plein de belles actions.
Vous qui connaissez bien l'état d'esprit anglais, on entend beaucoup le fameux « It's coming home ». On a également entendu en conférence de presse Harry Kane qui disait « Je crois que c'est quand même une année où on a une énorme opportunité ». Il dit « Il ne faut pas prendre le Danemark à la légère ». Mais quand même, on sait qu'on peut le faire et ça devrait suffire pour franchir la ligne. Est-ce qu'il faut prendre ça pour de l'arrogance? Est-ce qu'il y a un risque que les Anglais abordent légèrement les Danois de haut?
Moi, j'ai envie de dire que non, parce que je sais qu'il y a, et je dirais même peut-être qu'ils ont peut-être un petit peu peur, parce qu'il y a une telle pression. Parce que It's Coming Home et que c'est pas justement revenu depuis un certain moment en Angleterre, ça met une pression supplémentaire, et aussi de jouer à Wembley. Donc on peut dire qu'il y a de l'avantage qui est clair, mais les Danois viennent avec cette mentalité qu'ils n'ont rien à perdre. Tandis que les Anglais doivent aujourd'hui gagner.
Ouais.
Ce n'est pas... c'est une obligation pour le peuple. Si aujourd'hui les Anglais ne gagnent pas, ça fera du bruit. Donc, je ne pense pas qu'ils prennent ce match à la légère, au contraire, mais je dirais plutôt même carrément qu'il y a une pression qui est plutôt sur le dos des Anglais.
Un dernier mot, Johan, sur l'Italie, qualifiée hier soir, qui a sans doute vécu son match le plus difficile depuis le début du tournoi, peut-être un petit peu moins flamboyante qu'à l'accoutumée. On parlait de physique tout à l'heure. Est-ce que, justement, vous craignez que cette équipe ne pioche physiquement avant de rencontrer en finale soit l'Angleterre, soit le Danemark? Est-ce que, pour vous, c'est le favori, ou alors, non, il se situe peut-être dans l'un des deux de ce soir?
Alors, ben, j'ai envie de répondre que c'est une très bonne question, mais que jusqu'à hier, l'Espagne avait justement démontré le contraire, parce que l'Espagne avait, avant ça, fait deux prolongations contre la Croatie et la Suisse.
Elle était plus fraîche.
Elle a réussi encore à tenir le coup, et elle était plus fraîche sur le match. C'était assez incroyable. D'ailleurs, je pense qu'on peut carrément dire que sur ce match-là, et non pas sur le tournoi, l'Espagne méritait peut-être de gagner hier. Donc, j'ai envie de dire que non, l'Italie, à prouver, elle sait ce qu'elle peut faire, elle peut défendre, elle peut attaquer, elle peut souffrir. Donc je ne peux pas vraiment dire qui est favori aujourd'hui. Je pense que c'est nouveau sur le jour qui sera le mieux, qui sera le mieux préparé, qui sentira mieux les coups et pourra faire la différence. Parce que hier, on a vu avec l'Espagne que si l'Espagne est peut-être un peu moins maladroite, elle gagne peut-être le match 2 ou 3-1, tu vois. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais en tout cas, je ne vais pas le mettre sur le compte de la fatigue, non.
Un grand merci, Johan Giroud, d'avoir été dans le Café de l'Euro avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci, bonne continuation.
Merci à vous, pareillement, au revoir.
Merci, et le Café de l'Euro qui revient demain, ce sera avec Michel Léoni qui reprend le flambeau. À demain, 13h.
Le Café de l'Euro.